Utopod 033, 29 août 2009, les hommes Snoopy meurent tous comme les chèvres du Bengale, de Jean Petitgrou. Bonjour à tous et bienvenue dans Utopod. Aujourd'hui, un superbe texte de Dark Space Up, les hommes Snoopy meurent tous comme les chèvres du Bengale. Écrit par Jean Petitgrou, ce récit est originellement paru en 1984 dans le numéro 21 de la revue québécoise Imagine. Il a ensuite été repris dans l'anthologie de la science-fiction québécoise contemporaine, publiée en 1988 par la Bibliothèque québécoise sous la direction de Michel Lord. Né en 1955 au Québec, Jean Petitgrou est un géant des littératures de genre francophone, domaine où il œuvre tour à tour comme critique, anthologiste, rédacteur en chef, directeur littéraire et éditeur. Collectionneur émérite et lecteur insatiable, il est considéré comme un grand spécialiste de l'ASF, du fantastique, de la fantasy et du polar. En tant qu'auteur, Jean a publié à ce jour une soixantaine de nouvelles, novellettes, novellas et pièces de théâtre. En 1996, il cofonde les éditions Alire, qu'il dirige à ce jour et qui publie notamment Patrick Sénécal, Elisabeth von Harburg et Joël Champetier. Le lecteur du jour est Cédric Simon, nouvel arrivé dans l'équipe du Topod. Cédric est né en 1983 en région parisienne. Ingénieur du son diplômé, il se lance dès 2003 dans des études universitaires de théâtre qu'il mène d'abord en France, puis en Suisse. Ce qui lui permet, parallèlement à la comédie, de pratiquer entre autres les arts du cirque et la musique. Fraîchement sorti de la Haute École de Théâtre de Suisse romande, Cédric vient de rejoindre la troupe du Théâtre des Os à Fribourg. Et maintenant, embarquez-vous pour un futur très lointain, inspirez l'air sombre et glacial de votre neuf univers et... place à la littérature.
Les hommes Snoopy meurent tous comme les chèvres du Bengale, de Jean Petitgrou. Je m'appelle Nowhere et je vis sur le toit de ma niche. Son diamètre mesure très exactement 10 mètres et elle a l'air d'une grosse boule de lumière. Je suis l'un des quelques 300 milliards de passagers de la plus fabuleuse nef de toute l'histoire de l'univers. Voilà plus de 8 jours standards qu'il n'y a eu ni niche ni château dans les limites de mon système de détection. Tout reste noir, insondable, comme si la nef, comme si l'univers entier, mais y a-t-il une différence pour nous, passagers d'un vaisseau creux de plus d'un million de kilomètres de rayon, s'était soudainement évanoui dans le néant. N'était-ce le vent qui souffle à mes oreilles et transforme mes cheveux en tentacules graisseux, je pourrais me convaincre de mon immobilisme, aucun point de référence ne venant aider mon regard à saisir les concepts du mouvement et de la distance. Il fait froid. Le courant qui m'emporte, rencontré voici près de 6 heures et qui n'est indiqué sur aucune carte, glace ma chair. J'éprouve déjà des difficultés à pianoter sur les terminaux des accoudoirs. À la lueur unique et glaciale de ma niche, je regarde se perdre dans la nuit éternelle les bouffées d'haleine qui jaillissent de ma bouche. Je suis perdu dans un secteur perdu, d'une nef perdue dans la nuit intergalactique. Face au fauteuil de commande, de travail, de communication, de détection, de distraction, de recherche, et donc face à moi, puisque j'y suis affalé, l'écran du transmetteur reste vide. À quoi bon écouter les radotages d'un hypothétique capitaine ou ses stupides émissions de variété réalisées depuis je ne sais combien de millénaires, quand la fonction primordiale du transmetteur, qui est de relier directement et instantanément tous les passagers, reste lettre morte. 16 longs mois à errer dans ces terrées incognités où je m'étais engagé par imprudence, las de la turbulence du groupe 3785, de ses lumières folles et de son snobisme aussi stupide qu'intransigeant. La déprime enfuit, réalisant que j'étais perdu dans une de ces vastes zones sur lesquelles les cartes ne disent rien. J'avais essayé tous les codes d'appel possibles et imaginables pour m'apercevoir, à mon grand désarroi, que rien ne fonctionnait, dans un sens comme dans l'autre. Une panne du transmetteur, avais-je pensé pendant les mois de recherche désespérée qui avaient suivi, pour aboutir finalement à un château hanté, ayant les mêmes problèmes que moi, puis à une niche, où, avec stupeur, j'avais commencé à entrevoir l'ampleur et la gravité véritable de la situation. Je n'en peux plus. Péniblement, je me dresse sur mes jambes, mes tâtes au bas de mon dos afin de saisir le cordon. Mes mains frôlent, caressent, entourent cet appendice qui plonge dans les entrailles de ma niche par une ouverture dans le dossier du fauteuil extérieur. Je suis lié au mécanisme sophistiqué enfoui au beau milieu de ma petite planète personnelle. La machine me nourrit, me soigne, me recycle, m'enchaîne aussi. Et je le sais depuis peu, m'offre au bourreau sans qu'aucune alternative ne me soit permise. À un moment prochain, cette peur qui m'étreint se muera en folie. Alors, ces mêmes mains que je ne contrôlerai plus empoigneront de toute leur force ce câble qui me relie à la vie pour tirer, tirer, ultime et absurde tentative de fuite. Il s'arrachera dans un bruit de chair qui se rompt, et la douleur aveuglera mes sens, m'empêchant de voir le fluide vital se répandre, de sentir son odeur alcaline, d'entendre les hurlements de mon agonie. Une épaisse couche de givre emprisonne ma face glabre, mais je n'en ai cure. Je pourrais programmer une nouvelle trajectoire pour sortir rapidement de ce boyau de gel, mais ma destination encore lointaine m'oblige à me servir de la puissance de ce vent des confins. Je vogue vers la fille aux yeux hagards, vers son château déserté. Je dois savoir, à tout prix, ce qu'il est advenu de ses autres habitants. Les heures passent et je décide d'effectuer quelques tours à la course. C'est la seule activité violente qui reste possible pour nous, les passagers, afin de soutenir notre tonus musculaire. Rien de comparable, malheureusement, aux nombreux sports individuels que nous pratiquions à la crèche. Derrière moi, le cordon s'allonge tel une laisse garantissant ma bonne conduite. Je tourne, tourne et tourne encore. À pleine vitesse, gravité maximum, je boucle mon tour du monde en 5 secondes. Pas si mal avec ce handicap. La plus grande longueur du cordon est de 16 mètres. Je peux donc accéder partout à condition de prendre la bonne direction au départ. Au sortir de la crèche, je fus celui qui s'habitua le plus rapidement à cette entrave. Senewen n'y parvint jamais. Et sa gaucherie resta un sujet de plaisanterie dans notre cercle d'amis jusqu'à sa brusque disparition. Dérèglement de la gravité interne de sa niche, hausse de la force d'accélération subjective vers le centre, écrasement du corps. Une mort atroce. Pauvre gars. Il lui avait fallu beaucoup de temps pour comprendre qu'on devait toujours courir perpendiculairement au devant du fauteuil si on ne voulait pas avoir de mauvaises surprises. Le seul raffinement du jogger étant de le faire vers la gauche ou vers la droite. Le cœur battant, je m'arrête devant le transmetteur. Oui, cette fois je l'ai. Un tout petit point à la limite extrême de la détection, droit devant. Le château. Si ce courant froid ne bifurque pas ni ne ralentit sa course, j'y serai dans quelques heures. En sueur et littéralement transi, je vais me réfugier dans l'habitacle. La plaque d'entrée est à droite du fauteuil. J'y pose les deux pieds et je m'enfonce aussitôt, plaçant sans y penser mon appendice dans son cylindre de coulissement. Cet espace clos, le seul de ma niche, exception faite du sous-sol, me rappelle la chambre de mon enfance, à la crèche. C'est mon véritable chez-moi, ce qu'il y a de plus cher à mon cœur. Une lumière tamisée repose l'œil après la clarté agressive produite par le toit. Dans le coin opposé à l'entrée, un lit à gravité compensée. Juste à côté, mon secrétaire de travail, toujours encombré de livres et de papiers divers. Sur les autres murs, les bibliothèques encastrées s'harmonisent aux teintes chaudes, sensuelles de l'intérieur de l'habitacle. Je traverse la pièce et mon regard lorgne sur les rangées de reliures luxueuses. Amskayov, Hemingway, Randa, Schultz, puis sur l'autoportrait à l'oreille coupée de Van Gogh, les compositeurs de Guélin. Des deux holofenêtres, me parviennent les bruits de la foule qui se presse au feu de circulation de Times Square, des automobiles qui pétaradent et klaxonnent. La programmation est sur New York, vers 1935, je crois. Depuis quelques mois, j'aime beaucoup sentir cette atmosphère de ruche surchauffée de promiscuité routinière. Voir tous ces gens se frôler et se heurter sans y prendre garde allège ma solitude et me rappelle les grandes soirées dans certains châteaux à la mode. Maintenant que j'ai la certitude d'être sur la bonne voie, il m'est plus facile de repenser à la tragique aventure de la semaine passée. Assis sur le rebord de l'une des Holophènes, celle qui surplombe le flot incessant de cette foule morte il y a plus de 10 000 ans, je sombre bientôt dans un demi-sommeil peuplé d'ombre. Depuis ma rencontre avec le château, c'était le premier contact que je percevais. Une niche qui croiserait mon chemin dans quelques heures. Après de vaines tentatives de communication, je programmais une trajectoire d'interception. Les niches entreraient en interaction et se stabiliseraient à distance minimale pour permettre une rencontre binaire, soit environ 30 mètres d'un toit à l'autre, en orbite stationnaire. Ce fut d'abord un petit point blanc sur l'encre de la nuit, une tache blanche, un cercle, et enfin une sphère brillante sur laquelle une sombre aspérité cheminait d'un côté à l'autre, puis disparaissait quelque temps avant de parcourir à nouveau le même tracé. Cette aspérité, c'était le complexe transmetteur-fauteuil du passager en approche lente. Bien calé dans le mien, j'observais le début des manœuvres et je tentais d'apercevoir l'occupant. Il n'était pas sur son toit. Je me précipitais au sous-sol et fouillais partout. C'est finalement sous le billard que je trouvais le mégaphone. Quand je revins sur le toit, ce fut pour apercevoir juste au-dessus de ma tête la masse de l'autre niche. Je m'assis sur le fauteuil et regardai cette boule qui oscillait encore sous la force de la rencontre, la stabilisation des champs magnétiques de même polarité s'effectuant lentement. Le cordon de mon nouveau voisin allait de son fauteuil à l'habitacle. Peut-être dormait-il, ce qui aurait expliqué son ignorance de ma visite impromptue. Pourtant, sa niche brillait de tout son éclat. Il acceptait donc d'être dérangé. Je le hélai à voix normale, puis m'aidai du mégaphone. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Je décidai d'utiliser mon instrument à sa puissance maximale, ce qui n'est guère poli, j'en conviens, mais mon impatience se teintait d'un étrange malaise. Toujours rien. C'est à ce moment d'expectative que je pris conscience d'un détail troublant. Le cordon caudal d'un passager cherche toujours à retourner au creux du fauteuil. Il exerce une légère traction dans le dos, à laquelle on s'habitue très vite, et sa trajectoire s'apparente alors invariablement à une ligne droite plus ou moins brisée par les obstacles. Celui que je voyais au-dessus de moi montrait plusieurs courbes molles qui se modifiaient imperceptiblement en s'élevant. Il suffisait que j'y attarde un peu mon attention pour comprendre. Si la traction de ma sphère, très faible à cette distance, exerçait son emprise sur le lien de chair pâle, cela voulait dire qu'il n'y avait, au sein de l'autre niche, aucune gravité interne pour contrebalancer son effet. Le mouvement sinueux ainsi induit était vaguement obscène, cause probable de mon malaise. Nerveusement, je criai de nouveau, demandant au maître des lieux s'il avait besoin d'aide. Le cordon prenait maintenant des allures d'arc de cercle de plus en plus tendues. Lentement, il commençait à s'extraire du cylindre de coulissement. « Le passager s'en vient enfin !» pensais-je vaguement soulagé. Je me levai pour l'accueillir quand, sans avertissement, l'extrémité sectionnée de l'appendice surgit du cylindre et tomba doucement vers moi, égrenant sur sa trajectoire des gouttelettes de sang. Mon cœur s'arrêta l'espace d'un instant et je tombai en syncope. À mon réveil, la lumière conjuguée des deux niches me vrilla le cerveau et j'aperçus le serpent de chair pendu au-dessus de ma tête. Plusieurs minuscules taches de sang séchaient sur mon fauteuil, mes épaules et mes cheveux. Je m'essuyai tant bien que mal et me souviens avoir hurlé des insultes à tous ceux qui préféraient la mort à la lutte contre le désespoir, avoir pleuré longtemps devant le destin impitoyable qui maculait à nouveau à cette anxiété solitaire subie pendant de si longs mois. Et puis un doute s'insinua dans mon esprit. Peut-être l'homme était-il toujours vivant? La blessure était importante, mais le corps avait des réserves. Du moins pour une journée ou deux. Je devais vérifier. Tenter ma chance, si petite soit-elle. Je devins frénétique. À la course, j'allais chercher au sous-sol les instruments qu'il me fallait. La perche courte était une tige extensible à commande directe à l'extrémité de laquelle pouvaient s'adapter plusieurs accessoires. Je choisis le pied double, le miroir et la main. Fixais les deux premiers sur la perche courte, puis posais sur mon crâne le casque proche. Bien calé dans mon fauteuil afin d'assurer mon assise, je guidai le pied double vers l'entrée de l'habitacle et, la vision du casque proche réglée pour n'être qu'à quelques centimètres de l'ouverture, je poussai. Je crus qu'une marée rouge allait m'engloutir. Mes réflexes jouèrent et je pus refermer tant bien que mal la plaque jurant contre ma bévue. Le cœur battant la chamade. Tout ce qui n'était pas retenu à l'intérieur de l'autre niche était soumis à la force d'attraction que je dégageais et se pressait donc à la sortie. Je ramenai en vitesse la perche courte, changeai le pied double pour la main et l'alignai sur le terminal de mon visiteur. Il fallait agir vite. Le sang filtrant dessous la plaque menaçait d'éclabousser mon toit. Mais d'une distance de 30 mètres, la précision est difficile, même si on dispose d'une vue rapprochée. Je réussis finalement à presser les bonnes touches et la gravité artificielle de la niche revint. Trop tard cependant. Plusieurs bulles rouges avaient déjà dépassé la vitesse d'échappement et tombaient de plus en plus vite vers moi. Pris de panique devant cette pluie horrible et pendant que s'affaissait l'infâme cordon dans un bruit de chair flasque, j'annulai momentanément ma propre gravité. La brume rougeâtre rebroussa chemin à temps. J'étais en train de remettre en place le pied double tout en me cramponnant à mon siège quand un mouvement maladroit me fit perdre prise. Une minute plus tard, je pendais au bout de mes 16 mètres de cordon telle une araignée besogneuse. Dès que je fus stabilisé et revenu de ma surprise, je remis en route le pied double. La perche courte ne m'avait heureusement pas échappé. Après quelques minutes d'efforts et plusieurs mouvements pendulaires, je réussis à déplacer suffisamment la plaque d'entrée de l'autre niche pour pouvoir passer le miroir à l'intérieur. Le casque proche me donnait la sensation d'y pénétrer moi-même. J'eus une violente nausée, et je faillis lâcher mon instrument tant je n'étais pas préparé à ce que je vis. L'intérieur de l'habitacle avait été saccagé de fond en comble, comme si un animal sauvage et monstrueux s'y était déchaîné. Et sur le lit, maculé de sang comme toute la pièce, le cadavre du passager couvert de morsures effroyables à demi dévoré, ouvrait la bouche sur un dernier hurlement. Autour de moi, la jungle et son concert de cris. Au loin s'estompe le chant des indigènes qui retournent au village. Lentement, je vais d'une fenêtre à l'autre, contemplant sous tous les angles la chèvre qui broute l'herbe près de son poteau d'attache. L'Inde, 4e siècle. J'ai fouillé longtemps dans les banques pour retrouver cette scène. J'ai peur, comme cette chèvre aura peur très bientôt. Le courant froid m'a servi jusqu'au dernier moment. La masse pointue du château me surplombait quand je l'ai abordé. Il ne m'a fallu que 5 minutes pour arrimer ma niche dans l'une des alvéoles d'accès. Le choix s'est avéré simple. Elles étaient toutes vides. Le processus de transfert qui a suivi m'a paru plus long, mais ce n'était pas l'ardeur de mes sentiments galants qui me rendait si impatient. Je savais ce château inexplicablement vide de ses occupantes, à l'exception de la fille aux yeux lointains. C'était elle que je venais voir et entendre. Mon cordon m'avait enfin libéré après m'avoir généreusement pourvu d'énergie, puis je suis entré dans le château. J'étais libre, fort d'une vigueur de plus de 4 jours. J'ai gagné l'ascenseur qui m'amènerait au jardin, tout en haut, là où je pourrais commencer ma quête de la dernière châtelaine. Ce n'est que 72 heures plus tard, après avoir écumé jardin, salle de bal, salon particulier et chambre personnelle, que je l'ai trouvée. Morte. Elle était allongée sur le sol des cuisines. Un souvenir du calme serein qui avait dû l'habiter lorsqu'elle s'était donné la mort flottait encore sur son visage cireux. Morte. Mon dernier espoir, Ma dernière source possible de renseignements n'était plus qu'un tas de chair muet. À tout jamais. Désespéré, épuisé après cette longue quête inutile, je me suis abandonné à une colère sans nom. En proie à la folie, j'ai tout saccagé sur mon passage, rouant de coups le corps sans défense de la pauvre innocente, renversant les rangées de verreries, les piles d'assiettes de toutes sortes, défonçant à la hache de boucherie les comptoirs et les murs. Je suis arrivé sans m'en apercevoir à une porte aux gigantesques ferrures. D'un élan puissant, j'ai fendu le panneau central et j'ai tiré de toutes mes forces pour arracher le ventail. Un froid intense m'a enveloppé de sa chape de frimas. Mes yeux ont regardé sans les voir les poulies et les cordes qui couraient au plafond, espaçant régulièrement les crochets à viande qu'elles véhiculaient. Des crochets à viande qui, à perte de vue, transperçaient le dos et la poitrine des châtelaines. Des centaines de châtelaines qui se balançaient au gré du souffle généré par le système de réfrigération de toutes les femmes qui avaient peuplé ce château. La nuit tombe et les bruits diurnes se taisent graduellement. Un silence pesant enveloppe la jungle. Soudain, inquiète, la chèvre s'arrête de brouter et relève sa tête encornée. Elle regarde à gauche et à droite, veut suivre le sentier par où les hommes sont partis, mais la corde la retient, solidement. Elle tire, donne des coups. Ses oreilles tentent de percer la profondeur de la forêt qui la cerne. Son nez frémit, analyse les odeurs qui montent. Un bêlement plaintif s'échappe de sa gorge contractée par l'angoisse. Assis sur mon lit, je la surveille. Une queue de billard en guise d'arme à portée de la main. Le premier feulement ne tardera pas à sourdre et je veux voir son brusque saisissement d'effroi, cette peur atroce qui paralysera tout son être. Sous la plaque d'entrée, j'ai calé la perche court afin de retarder toute intrusion. Mais mes yeux ne peuvent s'empêcher de suivre le cordon qui disparaît par l'ouverture. Cet appendice qui m'apporte la vie et qui, ironie du sort, me condamne inexorablement à la mort. Frénétique, le cou meurtri par ses terribles efforts pour s'enfuir, la pauvre bête sent le fauve approcher. Elle mord la corde et s'échine à la ronger, mais cette dernière est trop épaisse. Jamais elle n'y arrivera à temps. Saisie de cette révélation soudaine, la chèvre se laisse choir sur le sol, le regard fou et le corps tremblant. Avec une curiosité malsaine, je m'approche de la fenêtre. Je pense que la chèvre, ne pouvant rompre son lien avec le poteau, se suicidera avant l'arrivée du tigre affamé.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. De retour de la convention mondiale de SF qui s'est tenue au début du mois à Montréal, je bouillonne d'idées et je caresse pas mal de nouveaux projets. Notamment, j'aimerais passer à la vitesse supérieure avec Utopod. Dans ce but, je vais lancer une grosse recherche de fonds dès cet automne. Cela dit, c'est un processus qui risque de prendre du temps, et bien que je sois optimiste, il n'y a aucune garantie de succès. Alors n'oubliez pas, celles et ceux qui ont envie de donner un coup de main à Utopod peuvent faire un don via le site. 2 à 3 euros par personne, si on les multiplie par le nombre d'abonnés et d'auditeurs réguliers, ça représente déjà beaucoup. Cela me permettrait de financer plusieurs émissions en payant aussi bien les auteurs que les comédiens et les ingénieurs du son. Il vous suffit d'aller sur le site www.utopod.com et de cliquer sur l'icône euro en bas de page. Autre manière de soutenir le projet, parlez-en autour de vous. Écrivez un article de blog, faites de la pub sur Facebook ou Twitter, mentionnez l'émission dans un forum, tatouez-vous Utopod sur le front en vue de votre prochain salon littéraire, craquez l'ordi de votre grand-mère et abonnez-la en cachette à Utopod, versez quelques gouttes de nanopub subliminale dans le café de votre patron. Vous l'aurez compris, tous les moyens sont bons de faire fonctionner le bouche à oreille. Je vous en remercie d'avance. Sur ce, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le 26 septembre prochain pour une nouvelle de Jean-Claude Duniac, un texte original et poétique qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Je vous souhaite une belle fin d'été et surtout n'oubliez pas, lisez beaucoup, écoutez beaucoup et amusez-vous bien. Bye bye !